RMC. Lay, l'amour et vous, Brigitte Lay.
C'est toujours Michel Odoul qui nous tient compagnie pour cette deuxième heure et c'est un plaisir, Michel Odoul. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres qui nous expliquent bien qui on est et quel sens on peut donner à son existence. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'être un peu plus libre et un peu plus maître de votre destin, de lire Michel Odoul. Ce serait tout à fait un bon guide. Et puis dans un instant, on va ouvrir le Wikisex, bien sûr. Ensuite, on recevra également Didier Van Coverlert à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Et puis, en love conseil, je vous proposerai des arguments pro-préservatifs. Comme ça, vous n'aurez plus aucune excuse si vous ne vous protégez pas. Et c'est Charlotte qui a lu un livre assez drôle pour nous, Un orgasme, mais avec son mec aux éditions J'ai lu Bien-être. Mais le Wikisex, c'est bientôt les vacances, Michel Odoul, et semble-t-il, il y a des personnes qui tombent malades justement quand les vacances arrivent. Pourquoi? C'est quand même
c'est un
ça.
Grand classique.
Oui, je sais.
C'est un grand classique. On tombe malade ou on se blesse la première semaine de vacances pour une raison très simple, c'est que tout le temps qui a précédé les vacances, on a tenu les choses bien en main, on était la tête dans le guidon, on maîtrisait, on gérait tout.
Dans le contrôle.
On était dans le contrôle absolument de tout et donc rien ne pouvait s'exprimer en nous. À partir du moment où nous partons en vacances, on se détend, on se relâche. Et alors à ce moment-là peuvent émerger des choses. Vous savez, c'est un petit peu, il se passe un peu la même chose qu'avec un enfant à table. Pendant tout le temps du repas, on lui demande de se tenir tranquille et de pas faire de bruit, etc. Et à la fin du repas, quand il peut se lâcher, alors là à ce moment-là,
il explose.
Et au niveau de notre corps, eh bien, ce sont les moments où les choses peuvent s'exprimer. Ce sont soit les vacances, soit pendant la phase nocturne. Parce qu'on a souvent aussi des tensions ou des choses qui émergent le matin quand on se réveille, parce que pendant la phase nocturne, le conscient a dû lâcher prise. Et donc là, à ce moment-là, les choses des profondeurs peuvent s'exprimer.
Donc le conseil, une semaine avant les vacances, écrivez votre journal intime pour sortir tout ce qui ne va pas. Ça vous évitera l'entorse du premier jour de vacances.
Mais ne serait-ce qu'au quotidien, vous savez, on comprend tout à fait l'hygiène corporelle et buccale, et etc. Pourquoi pas, avant de s'endormir, simplement se faire 5 minutes de relaxation, se prendre le temps d'une douche, se poser les 2-3 questions essentielles sur sa journée et en se demandant qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça soit plus tranquille, et etc. C'est-à-dire se permettre en fait ces petits moments d'évacuation qui en évitent un gros lorsque finalement on relâche et qui s'appellent souvent les vacances.
Mais oui. Julien, vous êtes avec une femme castratrice, oh là là.
Oui, malheureusement. Bonjour.
Bonjour Julien.
Oui, en fait, j'ai beaucoup de enfin, pas tout le temps, bien entendu, mais j'ai souvent des relations conflictuelles avec mon épouse, qui est quelqu'un de plutôt agréable à première vue, mais disons que je suis en conflit avec sa maman, donc ma belle-mère, qui est aussi castratrice, donc je sais d'où elle tient ça, et parfois c'est sujet à conflit, quoi. Donc je voulais savoir quelles étaient les clés pour améliorer les relations avec elle.
Je pense qu'il faut arriver à décerner quelle est leur haine des hommes, parce que les femmes castratrices, en fait, ce sont des femmes souvent qui sont pas si à l'aise que ça dans leur féminité et qui ont et qui sont en guerre avec l'homme, hein, au sens avec un grand H. Hein. Vous êtes d'accord, Michel?
Oui, c'est une problématique au masculin.
Donc il faut essayer de déceler. Alors si elle a pris la copie de sa mère, c'est peut-être plus facile encore à déceler. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans le couple, voilà.
Ben, disons que les dîners en famille, enfin en tout cas avec la belle famille, son papa est formidable, mais il y a une belle-mère qui est quand même, enfin c'est elle qui porte la culotte. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère aussi, donc à un moment donné, j'ai toujours été en opposition avec elle. Et disons que mon épouse le reproduit inconsciemment par période, et en même temps, elle est aussi quelquefois en conflit avec elle aussi. Donc mais disons que ça n'arrange pas les choses. Après, c'est sûr que si j'avais de meilleures relations avec sa famille, ça irait peut-être un peu mieux, mais c'est pas le cas.
Oui, mais je pense qu'il faut pas essayer d'avoir de meilleures relations avec sa famille pour l'instant.
Il faut
juste arriver à ce que vous ayez vos points de force là où elle peut pas agir, et puis que vous cédiez sur certains points. Il faut trouver une bonne manière de gérer la situation.
Vous avez l'air de dire que ça n'est pas tout le temps, donc dans les moments.
Heureusement.
Voilà, mais donc dans les moments où ça n'est pas comme ça, ce sont les moments où il faut en parler. parce qu'on ne traite pas quelque chose en état de crise. Lorsqu'on traite quelque chose en état de crise, ça ne finit qu'aggraver le conflit. Donc, dans les moments, en revanche, où vous êtes tranquille, il faut là essayer de poser un modus vivendi clair avec elle, en lui disant, écoute, voilà, moi, ça m'est difficile de vivre les moments où t'es un petit peu comme ça. On va mettre en place un jeu, quoi. Quand je sens que c'est en train de devenir un petit peu... tu reviens dans les schémas de ta mère, à ce moment-là, moi, je t'enverrai un signal, je te dirai un mot, on se trouve un mot-clé, quelque chose qui soit un signal de dire attends, attention, là t'es en train de repartir et de dériver, parce que à partir du moment où elle a eu ça comme exemple, effectivement elle peut avoir tendance dans les moments où elle est pas bien à utiliser,
à le reproduire,
mais que dès qu'elle se sent bien, c'est de ça dont elle a envie de sortir, et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer.
Mais est-ce qu'elle a repéré que sa mère était castratrice ou pas?
Oui, elle lui en veut beaucoup, hein, bon. D'ailleurs, bah donc, c'est très inconscient. Bah hein.
Voilà,
donc
voilà.
si elle a compris et qu'au fond d'elle-même, elle n'a pas envie de reproduire, vous avez toutes les armes pour arriver à gérer la situation. Mais il faut en effet vous lui faire signaler et puis vous servir, moi je le disais encore hier, il faut vous servir de l'humour. C'est ça qui permet de désamorcer.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Moi, de toute façon, j'ai pris mes distances, malheureusement, parce que pour me protéger, hein, parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous venez, quand vous êtes invité, qu'on fait tout pour pas que vous soyez à l'aise. Ça m'est désagréable, donc moi
non
j'ai...
Non mais Julien, les repas en famille, c'est autre chose. Qu'on soit obligé de s'adapter, voire même de se soumettre dans les repas en famille, ça n'a aucune
importance.
Exactement, c'est pas là où se joue notre virilité, en revanche, dans le couple, là on peut négocier. Mais les repas en famille, surtout n'essayez pas de lutter contre la belle-mère, c'est pas votre histoire, c'est l'histoire de votre beau-père, mais c'est pas la vôtre.
Voilà. Et ce d'autant plus que votre épouse semble avoir des moments où elle a pas du tout envie d'aller sur ce registre. Donc ça, c'est quand même la signature que c'est pas sa nature.
Exactement. Ou en tout cas qu'il y a une possibilité de progrès.
Oui, oui, oui.
Et puis on va donner la parole à notre testeuse, c'est Charlotte qui est avec nous aujourd'hui. Alors c'est une collection qui vient de sortir aux éditions J'ai lu bien-être, c'est les Ginettes. Alors c'est vraiment un petit guide qui se veut léger, amusant, hein. Et le titre c'est Un orgasme mais avec son mec. Alors on comprend bien que le titre se veut drôle, décalé, et vous allez nous dire ce que vous en avez pensé, Charlotte.
Oui, alors d'abord il faut savoir que ça se lit si on a un mec ou pas, puisque pour ma part je n'en ai plus depuis quelques mois, mais ça m'a quand même été bien utile parce que on a l'impression en fait de lire un magazine féminin en allant à la plage et puis d'avoir plein d'infos de tout type, voilà, avec des schémas, des quiz, des profils, et donc c'est assez ludique. Enfin moi j'ai découvert la lecture de ce livre. Enfin, progressivement, et je l'ai lu en deux fois, donc sachant qu'il y a quand même pas mal de pages, je sais pas combien, à peu près 200 je crois, et c'est vrai que c'était assez fluide et on a envie de continuer parce qu'on a l'impression d'avoir une vraie conversation en fait avec le livre et avec les Ginettes, tout comme ça pourrait être le cas à une soirée entre filles, une soirée pyjama ou autre.
Et on apprend des choses, Charlotte?
Oui, alors on apprend, moi ce que j'ai retenu en premier c'est de communiquer, que la femme doit communiquer pour se faire comprendre, mais après il y a aussi des infos plus scientifiques sur le corps humain, le corps de la femme, les réflexes, etc. Et sur, il y a une partie historique avec des infos et puis des informations sur la société, le taux d'hommes qui aiment telle chose dans tel pays, etc. Donc c'est des petites infos qu'on n'aurait pas forcément découvert.
D'accord. Donc finalement c'est très ludique. On apprend mais de manière très ludique. C'est donc plutôt drôle. Quelle note vous lui donnez, Charlotte?
Je dirais 9 sur 10.
Ah parce oui.
Que si ça venait avec le mec en question, on pourrait le mettre en pratique et mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Ça ferait 10 sur 10.
Bon, bah trouvez-le ce mec, Charlotte, il faut le trouver.
Je le recherche maintenant, j'ai toutes les clés en main.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas de l'avoir testé pour nous, cet ouvrage, Les Ginettes, un orgasme, mais avec son mec, c'est aux éditions J'ai lu Bien-être. Il me reste à vous remercier aussi, Michel Odoul, et je vais rappeler aussi le titre de votre dernier livre, Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, les 12 étapes herculéennes de la croissance, aux éditions Albin Michel. Dans un instant, le Love Conseil du jour est Didier Van Coverlaert qui va nous tenir compagnie. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, l'amour et vous. RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Alors c'est bientôt l'été, bientôt les vacances, et j'ai eu envie de vous donner un love conseil un peu prévention aujourd'hui. Et voilà sept arguments pro-préservatifs, voilà, parce que je crois que c'est la bonne résolution à prendre, ne jamais faire l'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas sans préservatif. Donc voilà sept conseils pour le ou la convaincre, parce qu'il y a aussi les femmes parfois qui ne veulent pas le préservatif, il n'y a pas que les hommes. Alors si on vous dit j'ai moins de sensations, bah, vous pouvez déjà répondre, de toute façon si on fait pas l'amour, tu n'auras aucune sensation de toute façon. Ensuite, si on vous dit que les capotes sont trop petites, pas de souci, il en existe des XXL. Si on vous dit je ne sais pas le mettre, pas de problème, je peux t'aider. Si on vous répond mais j'ai fait le test la semaine dernière, vous pouvez aussi répondre oui, mais moi j'en ai jamais fait de test, donc prenons nos précautions. Si on vous dit je n'en ai pas, ben oui, vous en avez toujours sur vous, bien entendu. Et puis, si on vous dit mais pour qui tu me prends, et ben il faut tout simplement répondre pour quelqu'un de respectable et qui me respecte. Et si on vous dit mais tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance, ben vous répondez ben pas encore, mais après un rapport, qui sait. Voilà. Donc utilisez en tout cas un ou deux arguments que vous allez préparer de manière à être sûr que vous ne céderez pas au non-port du préservatif, parce que le problème c'est qu'après on risque de se sentir pas très bien. On va parler littérature aujourd'hui avec un auteur que vous connaissez certainement tous, Didier Van Coverlet, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Vous êtes, on peut le dire, auteur à succès. Vous étiez venu nous parler du dernier, avant celui-ci, Jules. Je crois que ça a été un des grands succès de 2015, ouais. C'était cette histoire de chien d'aveugle.
En dépression profonde depuis que sa maîtresse a recouvré la vue, oui, et qui essaie de... Eh ben, de se retrouver une utilité, une raison de vivre.
Alors vous nous revenez avec un autre roman, on dirait nous, aux éditions, toujours aux éditions Albin Michel, on va en parler dans un instant, mais moi j'ai essayé de réfléchir, j'ai lu beaucoup de vos romans, Didier Van Coverlet, et j'ai remarqué une chose, curieusement, alors que vous êtes un homme, un vrai, je n'en doute point, c'est souvent les femmes qui ont le rôle important, ou en tout cas,
oui,
qui sont un peu la clé.
Ceci explique en cela, oui.
Votre succès peut-être. Hein.
Non, mais surtout, bon, ma sincérité, c'est vrai que je dois beaucoup aux femmes, l'inspiration, l'admiration aussi. Je trouve les femmes plus courageuses que les hommes, très souvent, plus intéressantes, moins prévisibles. Et puis j'aime bien cette force qu'elles tirent de leur vulnérabilité bien gérée. Donc,
mais vous êtes d'accord, c'est souvent une femme qui est un petit peu
qui a le rôle fort. Oui, parce qu'elles agissent en plus comme
en tout cas, qui tient la clé, enfin le pilier central du roman, je trouve.
Oui, parce que souvent je dis je à travers un homme différent de moi. J'essaie à chaque fois justement de créer un personnage différent, d'avoir un autre point de vue que le mien sur le monde, sur les autres. Mais très souvent, dans le regard de cet homme, il y a une femme et un regard qui souvent doit beaucoup à cette femme. Ouais. Mmh.
Alors j'imagine que ça doit être une des raisons du succès que vous avez, parce qu'on sait que les femmes lisent plus de romans que les hommes. Les hommes,
oui, mais les hommes reviennent en force. Ça, c'est depuis quelques années, j'ai remarqué.
Ils deviennent féminins.
Peut-être. Non, je pense qu'ils ont envie justement d'avoir parfois une autre vision sur les femmes, et les romans servent à ça aussi, à agrandir un peu le champ de conscience. C'est ce que me disent beaucoup d'hommes. J'aime bien quand ils tombent amoureux de mes héroïnes. Je suis pas jaloux, je veux bien les partager.
Oui, ça je comprends. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez bien cerné la personnalité féminine, parce que c'est on y croit, vos héroïnes.
Ce ne sont pas des fantasmes d'hommes. Voilà, c'est ça. C'est pas une. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité des femmes, leur pouvoir de rêve et de faire rêver, mais leur vérité, quoi. C'est ça. Je n'aime pas une image idéalisée de la femme où j'essaie pas de retrouver à chaque fois des schémas types.
Elles sont très différentes.
Voilà, hein. C'est vraiment l'originalité, la sincérité, le mystère aussi de chacune de ces femmes qui m'intéresse.
Alors dans On dirait nous, ce roman qui est sorti il y a 3 semaines, Didier Van Coverlet, c'est une jeune femme violoniste qui a rencontré un homme pour l'instant un peu, on va aller Indominable.
Non, c'est un glandeur à fort potentiel qui se débrouille. Vous savez, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des rêves un peu trop grands pour ce que propose la réalité, qui se heurtent à des murs, à des problèmes financiers, matériels et tout, et qui ont tendance un peu à renoncer à leurs rêves pour essayer de s'insérer dans la réalité. Mmh. Heureusement que les femmes sont là pour corriger un peu le tir. Par exemple, elle, c'est un rêve ambulant.
C'est une
violoncelliste qui... c'est un coup de foudre dans un train où il lui sauve la mise parce que le train est complet et elle est avec son violoncelle. Vous savez, ça s'appelle un BHG, c'est un bagage hors gabarit pour la SNCF. Mmh. Vous êtes obligé de payer une place parce que ça ne rentre pas dans les casiers.
C'est énorme. Oui.
Et donc quand le train est plein, vous êtes obligé de débarquer ou vous le violoncelle. Sauf que Ilan, mon héros, il a deux billets parce que grâce au ciel, si je puis dire, il vient de se faire larguer par sa copine. Il avait fait le week-end. Il avait préacheté le week-end de la dernière chance, quoi, pour son anniversaire, un relais château comme ça au Mans. Et puis elle est pas venue et donc c'est pas remboursable. Donc il est parti tout seul avec deux billets pour pas laisser perdre. Donc il offre son billet au violoncelle. Alors évidemment c'est le début de ce coup de foudre. Et c'est un ménage à trois.
Le violoncelle joue un rôle important dans le roman. Et alors on dirait nous, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné ce jeune couple rencontre un couple très âgé, il y a une sorte de d'effet miroir entre eux,
ouais.
Et c'est là où tout, on va pas raconter le roman évidemment, et c'est là où l'histoire...
Où tout bascule, oui, c'est une fascination mutuelle, parce que tous les deux ont les habitudes amoureuses sur un banc de square le week-end, et quand ils sont devant le square, ils trouvent leur banc qui est pris. Et il y a un couple de vieux qui est assis à leur place, qui mange des éclairs au café tout en se tenant la main comme s'ils venaient de se rencontrer. Et Soline dit à son compagnon, on dirait nous à leur âge. Et c'est la même tendresse, la même sensualité, une même forme de précarité en même temps. Sauf que les deux vieux se disent la même chose, mais eux, ils ont visiblement des objectifs très particuliers sur ce jeune couple. Ils vont se livrer à une sorte de petit harcèlement en douceur, et on va découvrir rapidement pourquoi.
Exactement, donc on va pas raconter tout le roman évidemment, mais Didier Van Coverlet, comment vous est venue l'inspiration pour ce roman? Ça part d'où, au départ?
Un roman, c'est toujours un point de rencontre entre des sentiments qui demandent à être exprimés, qui demandent à sortir de soi, des émotions enfouies, non dites ou tellement fortes qu'il faut en faire quelque chose, et puis une situation, une intrigue qui va permettre de ces sentiments de se focaliser, de se greffer sur une situation. Et là, j'avais besoin de raconter une histoire intergénérationnelle. J'avais besoin de parler de ce côté très complémentaire entre des jeunes qui ne savent plus où ils vont en dehors de leur histoire d'amour, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, et des vieux qui ont tellement à transmettre, qui ont une telle énergie, une telle joie, mais qui n'intéressent plus personne, et puis qui sont eux en fin de vie, en se disant comment on va finir avec tout ce qu'on aurait encore à donner, tandis que les jeunes se disent qu'est-ce qu'on va devenir avec des rêves auxquels ils sont obligés de renoncer. Donc la rencontre entre ces deux couples, et je voulais qu'elle soit au début vraiment magique, comme un merveilleux cadeau qui se font mutuellement, et puis on découvre, comme souvent, que les cadeaux peuvent être des pièges, mais des pièges qui peuvent aussi agir en révélateur.
Oui, en même temps, il se passe beaucoup de choses dans l'échange, justement, pas toujours désintéressé, mais il se passe beaucoup de choses dans ce roman, on dirait nous. Alors, vous parlez des jeunes couples. En effet, on a l'impression que c'est compliqué aujourd'hui de donner de l'avenir à son jeune couple. C'est ça aussi qui vous a donné envie d'écrire ce livre?
Oui, parce que lui, comme vous le disiez, il est un peu, il bricole, quoi. Il a laissé un peu ses rêves au placard. Et elle, qui vivait ses rêves jusqu'à présent avec un violoncelle qui est un instrument extraordinaire, qui est de 1701, un Go Thriller qu'on lui a prêté, qu'un fonds de pension lui a prêté, concours Rostropovitch, mais le temps du prêt est terminé, on le lui reprend et elle peut plus jouer sur un instrument ordinaire, contemporain.
Mais je reviens à ma question, vous avez l'impression que les jeunes couples aujourd'hui ont du mal à se projeter dans l'avenir?
Oui, c'est-à-dire qu'elle, quand on lui reprend son instrument, elle n'a... Il euh, euh, y a comme elle refuse de d'abandonner elle son idéal de jeu, de jouer sur quelque chose qui est pas aussi bien, fera plus que de donner des cours, elle va rentrer dans le rang, elle va laisser perdre son talent parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités financières ou autres de pouvoir garder cet instrument. Et donc c'est la porte ouverte aux concessions ou au refus des concessions. Elle justement préfère ne donner que des cours, ne plus jouer, former donc un peu la relève, quoi. Au lieu de, s'il n'y avait pas eu la rencontre de ces deux vieux qui va tout changer, ils auraient été en perdition parce qu'en fait ils n'ont plus que leur amour, dont évidemment ils vont pas construire sur une durée
donc,
supposée.
Donc s'il y a que l'amour dans un couple, c'est compliqué de le faire durer aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire.
C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a l'amour, mais à côté de ça, bah, il y a ne serait-ce que le fait sous quel toit on va vivre cette histoire d'amour, comment on va faire financièrement. C'est difficile de vivre d'amour à d'eau fraîche, justement, quand l'eau en plus tarit un petit peu.
Vous êtes toujours célibataire, il me semble, vous, non?
Non, je suis à la fois.
Enfin, vous n'êtes pas marié, je veux dire, au sens.
Si, aussi.
Vous êtes marié.
Mais je suis toujours un amoureux. Je suis pas résumable à un état civil. Je suis un.
Non, mais c'est une manière d'aborder le sujet. Je passe par le factuel pour entrer dans quelque chose de plus intime, en fait. Parce que vous avez du mal à parler de vous. Vous revenez toujours sur vos.
J'ai aucun mal à parler de moi. Mais j'ai pas envie de faire surimpression sur mes personnages. Parce que sinon j'écrirais des livres autobiographiques, je partirais de mon nombril. Donc j'aime donner vie à des personnages qui auraient pu être, par exemple, ce que je serais devenu si j'avais renoncé à certains rêves, si j'avais pris d'autres chemins. Donc j'ai pas envie qu'on donne mon physique, mon état civil à mes personnages. Donc je m'efface un petit peu derrière eux.
Protégez.
Après, se protéger, je suis pas vraiment en danger, mais disons que je.
Non, il me semble que c'est toujours un peu compliqué. Je vous connais bien maintenant, ça fait plusieurs fois que je vous reçois. Il me semble que c'est toujours un peu compliqué pour vous de parler de vous.
Oh non, je souvent parlais de moi avec vous, mais à chaque fois, je suis quand on parle de mes livres, c'est vrai que j'ai tendance à laisser vivre les personnages, à ne pas prendre le pouvoir sur eux, à pas faire surimpression. Je suis.
Mais quand vous êtes on est à la radio, ok, vous venez pour parler de votre livre, je comprends bien. Mais quand vous êtes avec des amis, vous parlez de vous. Vous parlez pas que de vos personnages.
Non, mais je parle d'eux aussi. Je suis pas quelqu'un qui.
Vous préférez écouter les autres plutôt que de parler de vous?
Oui, parce que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer de plein de manières. Tant de gens ont besoin, bah vous le savez mieux que moi, tant de gens ont besoin qu'on les écoute et qu'on les aide à trouver les mots pour exprimer ce qui les ronge souvent.
Vous prenez des notes pour vos romans quand vous les écoutez?
Oui, ou je prends moins de notes qu'avant. J'ai eu une période plus jeune où j'avais tellement peur de perdre les choses, donc je fixais tout de suite et je me suis rendu compte que ce qui doit être fixé va l'être. On retient après.
C'est Jean-Claude Carrière qui me disait, j'ai toujours un calepin près du téléphone parce que quand quelqu'un m'appelle, je peux toujours avoir une idée, je la note. Vous avez dépassé ça y est.
Non, j'ai pas dépassé. Puis Jean-Claude est un ami que j'admire énormément, donc je suis très heureux aussi de fonctionner comme lui. Mais j'ai pas forcément le carnet, mais j'attrape un bout de feuille, j'attrape bouger qui est sur ma main quand vraiment il y a quelque chose fixé. Mais je me suis rendu compte quand même, lorsque ensuite je recherche un souvenir que je n'ai pas fixé sur le moment, ou même quelque chose, quelqu'un a dit, ça revient. Quand c'est important, ça revient.
Oui, bien sûr. On a Alain qui a envie de vous poser une question. Bonjour Alain.
Bonjour Brigitte et bonjour Didier.
Bonjour.
Didier,
donc, j'aime bien les écrivains. J'adore les écrivains, donc super. J'ai une question sur le couple, parce que moi j'ai mon idée là-dessus et je veux voir si Didier la partage. Est-ce que vous pensez, comme moi, que les couples qui ont une différence d'âge conséquente, surtout quand c'est la femme qui est plus âgée, sont voués à terme à ne pas continuer?
Ben non, et je pense que j'en suis un peu la preuve vivante. Non, c'est pas. Je pense que d'abord il y a des personnes, ça j'ai remarqué, que les personnes qui vieillissent le mieux, c'est-à-dire qui changent le moins, sont les personnes à qui qu'on a un peu privé de leur enfance ou qu'on a mis en pension, qu'on a un peu cassé au départ et qui vont toute leur vie se rembourser de ce manque d'enfance ou de ces privations au départ, quoi. Et garder la part d'enfance intacte, c'est vraiment ce qui garde la jeunesse. C'est comme dans la chanson de Brel, hein. C'est il nous aura fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte. Je pense que là, il n'y a plus de problème d'âge. Et puis, la question de la beauté intérieure qui sort à l'extérieur quand il y a suffisamment de regards pour l'entretenir aussi.
Moi, je le voyais plus avec le décalage des activités qui s'intensifient. Par exemple, pour prendre un exemple type, l'homme plus jeune qui a plus de 10 ans, on va dire une quinzaine d'années d'écart avec sa concubine, effectivement, quand lui, il continue à 50 ans à faire de la moto, à 65 et 70 ans, c'est plus difficile d'emmener...
Mamie faire de la moto.
Ouais, voilà. En gros, c'est ça.
Surtout si elle fait de l'ostéoporose.
Oui et non, mais vous avez des jeunes qui sont beaucoup plus fatigués. Vous savez, dans on dirait nous, je mets en scène un vieux monsieur totalement flamboyant qui, à 90 ans, a continué jusqu'à un passé très récent à faire l'amour avec sa femme. Et là, et bon, ils ont quand même conservé les préliminaires, des préliminaires assez particuliers. Et lorsque il s'est greffé sur la jeune héroïne, son compagnon se retrouve de 30 ans avec un rival de 90 ans et c'est pas gagné parce que justement la définition de la jeunesse, de la mobilité, de l'appétit de vivre, tout ça n'est vraiment pas résumable à la chronologie et à l'état civil. Je pense qu'on a besoin de rajeunir au contact de personnes parfois plus âgées que vous.
Bon, donc c'est une leçon de jouvence et de pleine de sérénité.
Et ben voilà. Merci Alain, en tout cas. Merci beaucoup. Et on attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous emmener en prison.
Oui, sans vous Ariane. Faire passer par la case départ. Non, parce que je me suis rendu compte
que... J'adorais jouer au Monopoly, moi.
Vous gagnez ou perdiez souvent?
Je gagnais pas mal. Oui.
Ça m'étonne pas. Oh.
Qu'est-ce que vous sous-entendez par là?
Je sous-entends rien. Non, je vous parle de prison parce que parfois les raisons d'emprisonnement sont... aberrante, surprenante. Et alors j'en ai trouvé trois comme ça. La première, ça concerne une Italienne, ça remonte à février dernier, qui a été poursuivie par son ex-mari pour mauvais traitement familial. Alors, au-delà du fait qu'apparemment elle s'occupait pas vraiment de ses enfants, préparait pas le petit déjeuner, ni les cartables, ni tout ça, eh bien surtout elle délaissait son mari, elle ne faisait pas le ménage non plus, elle se refusait sexuellement et il était obligé de dormir à l'extérieur de la chambre conjugale. Et donc, de fait, eh bien, conformément au code pénal italien, elle s'est retrouvée 3 ans en prison comme ça.
Mais c'est quoi la vraie punition, enfin sur le plan juridique, c'est quoi?
Il n'explique pas plus. Il dit juste que ça a été tranché comme ça, que si à partir du moment où il n'y a pas,
plainte contre elle.
Il a porté plainte contre elle parce que elle n'était pas là pour assumer.
Oui, je comprends bien, mais il n'y a pas un vrai motif. Enfin, je sais pas.
Le motif, c'est mauvais traitement familial. Voilà ce qui a été retenu.
Là, c'est plutôt absence de traitement. Là,
c'est mauvais traitement familial.
Et divorcer simplement, la laissant en liberté, il n'y a pas pensé.
C'est vrai que le divorce, en revanche, n'a pas été prononcé. Oui.
Non, parce qu'en plus, on la met en prison, donc c'est pas ça qui va arranger son problème à lui. C'est que déjà, il n'aura pas son pain. Il restera à la porte de la chambre et donc.
Ah non, là, il pourra aller dans la chambre, elle n'y est plus.
Oui, mais enfin, c'est pas ça qui est. Voilà, non, bon, il se fera l'amour tout seul dans le lit de sa femme. Oui, bon, ça sera la compensation.
Je suis d'accord avec vous, c'est assez aberrant.
Bah, c'est aberrant, je vous dis, il y en a plusieurs et j'en ai fait que 3. La deuxième, alors là, ça remonte à l'année dernière, une Mexicaine de 21 ans qui a été gardée 12 heures derrière les barreaux en garde à vue, donc, parce qu'elle refusait de laver le linge sale de son époux. Elle a été condamnée à une amende de 23 €, 400 pesos pour être exact, et elle avait le choix, soit payer cette somme-là, soit passer donc 12 heures en garde à vue. Et comme elle n'avait pas le moindre sou et que son mari refusait évidemment de payer cette amende, eh bien elle s'est retrouvée effectivement 12 heures en garde à vue.
Et il n'y a pas là les travaux d'intérêt généraux où elle aurait fait la lessive comme ça pendant 3 jours.
Vous avez l'apport public.
Tous les costumes rayés des prisonniers.
Non, mais c'est fou. Et troisième chose, alors là, c'est la la tendance est l'excès inverse. C'est un homme, un Sicilien, ça s'est passé en 2009, de 30 ans, qui a été libéré de prison, parce que je ne sais plus quel, quel crime il avait commis, mais en tous les cas, il était libre et assigné à résidence. Et pourtant, cet homme a refusé de retourner chez lui pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait surtout plus devoir cohabiter avec sa femme parce qu'elle était insupportable, parce que elle ne pouvait, enfin, elle pouvait pas s'empêcher de toujours lui faire toutes sortes de remontrances et notamment lui reprocher de pas contribuer financièrement à l'éducation de leurs deux enfants. Et donc, il a supplié les policiers de bien vouloir le réemprisonner pour être sûr de ne pas devoir subir cette femme qui ne supportait plus.
Cela dit, il y a paraît-il des personnes en effet qui ont vécu longtemps en prison et qui ne se sentent absolument pas à l'aise à l'air libre, si je puis dire, ouais. Et qui préfèrent rester en prison. Alors là, il dit que c'est parce qu'il veut pas retrouver sa femme, mais on ne sait pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Oui, c'est peut-être le prétexte.
Parce que là encore, il pourrait divorcer, il pourrait aller habiter ailleurs. Donc finalement, c'est vrai que c'est une raison qui peut paraître un peu surprenante et qui reprendrait peut-être votre idée de préférer.
Mais les humains sont très surprenants.
Mais oui, mais de là être aberrant, ça
et comme je le dis souvent, la réalité dépasse parfois la fiction, non, Didier Pankovalat?
Oui, moi aussi je suis allé en prison. Et
à cause
on m'a
pas
laissé ressortir.
À cause de qui? De quoi?
À cause d'un livre, parce que j'ai eu le prix littéraire à la prison de la santé. Donc
des
détenus qui avaient voté pour moi, sauf que donc au bout d'un moment, vous vous retrouvez dans une salle avec des lecteurs, des questions, des intervieweurs, et vous oubliez que vous êtes en prison, quoi. Ce qui est bizarre, c'est quand après vous sortez, vous êtes le seul à sortir. Sauf que là, il y avait un problème au portique, au portail électrique, et j'ai pas pu sortir. Voilà, un très long moment. Donc là, tout à coup,
on se sent oppressé, non?
Et on me dit donc, c'est-à-dire, on peut, si jamais on n'arrive pas, on peut vous loger. Vous voyez tout ça, vous attendez ce genre de dialogue. Donc non, c'est très particulier quand on va. Bon, et puis je suis allé à d'autres occasions. C'est vrai que la sortie est un vrai problème. Donc au bout de quelques heures, je rencontre le problème de sortie. Donc pour des personnes qui ont vécu à ce rythme-là, c'est vrai que retrouver la vie telle qu'elle était avant, c'est pas toujours évident, surtout quand il y a des problèmes à la maison et tout.
Bon, dans le cas de ce Sicilien, il n'a pas eu le choix, il a été obligé de retourner chez lui. Les policiers lui ont conseillé de faire la paix avec son épouse pour que tout se fasse bien.
Merci Ariane, on se retrouve dans un instant. Et si vous avez envie également de poser une question à Didier Pankovalat, vous pouvez tout de suite nous appeler au 3216. À tout de suite.
RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Didier Pankovalat est avec nous à l'occasion de la sortie de ce roman On dirait nous, aux éditions Albin Michel, un jeune couple qui rencontre un vieux couple et il se passe beaucoup de choses et on n'en dira pas plus, bien sûr, on a déjà raconté un peu le début de l'histoire. Il me semble, Didier Pankovalat, que dans ce livre, vous avez eu envie aussi de parler de deux, trois choses qui vous tiennent à cœur. Je crois que vous aviez envie aussi de défendre un peu l'Alaska qui devient une usine à touristes.
Oui, ben bon, la vieille dame de mon livre est une indienne d'Alaska, une indienne Tlingit, et qui a été enlevée par son mari 50 ans plus tôt, enfin enlevée consentante, puisque lui est un grand professeur de linguistique à la Sorbonne, passionné par la langue Tlingit, qui est la langue la plus complexe au monde, qui n'est plus parlée que par 1000 personnes, et lui est allé là-bas et a séduit cette femme en lui apprenant sa langue, en lui réapprenant sa langue, parce que on sait que les Indiens d'Amérique, très souvent, on leur dit oubliez votre culture, votre langue, c'est pour vous s'insérer dans la culture américaine. Et donc voilà, c'est vrai que c'est tout un monde qui disparaît, qui est absolument fascinant là.
Ouais, moi j'ai trouvé ça très triste. C'est vrai, c'est quand même des zones du monde qui avaient une couleur, quoi.
Et c'est pas seulement la beauté, le côté sauvage de l'Alaska, c'est l'extraordinaire connexion qu'il y avait entre les premiers habitants de l'Alaska, entre ces Indiens qui étaient chez eux, notamment les Tlingit, c'est eux qui ont chassé les Russes. Et puis on détruit un accord formidable. Par exemple, les Indiens Tlingit, quand les Russes possédaient l'Alaska, eux ont toujours refusé cette invasion de leur sol, et ils les attaquaient sans armes, et ils étaient invincibles. C'était une espèce de tribu d'Astérix. Pourquoi se pensaient-ils invincibles? Parce que ils coupaient un cèdre rouge, qui était vraiment un arbre avec lequel ils avaient communiqué, en lui disant « Je ne prends pas, c'est pas pour te tuer, c'est pour que tu m'aide aide à garder la vie. Et ils avaient des armures en bois qui ressemblaient à des stores vénitiens. Pour regarder sur internet, c'était assez ridicule. Et ils étaient certains de ne pas être tués par les balles des Russes, ce qui fait qu'ils les attaquaient et les Russes n'ont jamais réussi à les tuer. Et ils en ont eu tellement marre que le tsar, en 1867, a vendu l'Alaska aux États-Unis. Et ils sont partis, vraiment chassés par cette tribu indienne. Donc, c'est important de sauver cette mémoire, ce souvenir, cet exemple de ce peuple qui vit en parfaite entente avec les animaux, avec les arbres, avec le sol, et qui ont encore des choses à nous dire, nous qui prétendons vouloir sauver la planète, mais si on ne sait pas comment la planète fonctionne, ça ne sert à rien d'avoir des...
Et c'est peut-être ça aussi une des clés de votre succès, Didier Van Kovalaert, c'est que dans chacun de vos livres, vous laissez passer des petits messages de manière très subtile, hein, mais on sent qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur.
Vous savez, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à ces personnages qui sont touchants, qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire. C'est pour ça que je suis romancier aussi. Je mets en situation, c'est pas pour apporter des informations de manière brute, et souvent on est tellement saturé d'informations, ça sort tout de suite par l'autre oreille.
Alors, en tout cas, moi, ça m'a donné envie, en effet, de sauver l'Alaska, quoi.
Voilà. Parce que ça me fait plaisir et sauver l'Alaska, c'est aussi sauver ces derniers, la culture, les mœurs de ces habitants-là, de ces Indiens, qui, voilà, c'est vrai que quand elle prend sous son aile cette jeune femme, elle va, avec sa sensibilité, sa culture, son rapport à la nature, à la vie, à la mort, elle va la changer complètement.
Ah oui, elle lui transmet beaucoup de choses,
d'autant
évidemment.
D'autant plus que...
Alors, il y a une autre chose aussi qui transpire dans ce livre, on dirait nous, Didier Van Kovalaert, c'est votre notion de la vie, de ce qu'il y a peut-être après la vie. Enfin, en filigrane, il y a quelque chose comme ça qui passe.
Bien sûr,
passe
en
aussi.
L'occurrence, la réincarnation, puisque les Indiens Tlingit croient en la réincarnation, et en plus ils la pratiquent de manière très particulière. Ce sont les seuls, à ma connaissance, à choisir de leur vivant leur prochaine famille. C'est-à-dire ils font des entretiens d'embauche, des espèces de casting pour choisir la famille où ils vont se réincarner. Et en fait, c'est ce qui arrive, sans tout raconter, c'est ce qui arrive dans le roman. C'est-à-dire ce vieux couple a choisi ce jeune couple qu'ils observent, qu'ils espionnent depuis longtemps.
Mais vous y croyez, vous, à la réincarnation?
Alors je constate d'abord qu'il y a parfois des éléments très difficiles à expliquer autrement. Quand un enfant, dès qu'il sait parler, se met à raconter une autre vie, en disant quand j'étais grand, quand je m'appelais un tel, il m'est arrivé ça, et qu'on retrouve cette histoire de quelqu'un de...
Mais vous qui avez un tel imaginaire, on peut penser que c'est l'imaginaire, ou que c'est des fragments de choses
qu'on... Lorsqu'on retrouve la trace de cette personne, exactement combien d'enfants il avait, quel métier il faisait, lorsque les enfants, par exemple, de manière innée, savent réparer un moteur, savent faire des choses très très précises, issues de cette vie dont ils racontent les souvenirs. Quand en plus ils ont des traces de dépigmentation, par exemple autour du cou, là aussi la personne est morte étranglée, il y a vraiment une trace qui ressemble à une trace de strangulation, une tuée par une balle, là où il y a eu l'entrée de la balle, il y a une marque de psoriasis. Et ça, il y a plus de 3000 cas attestés par l'université de Virginie, le docteur Stevenson qui a fait une enquête extraordinaire là-dessus. Donc là, on ne peut que constater. Et que quelquefois il n'y a pas d'autre explication que l'hypothèse de la réincarnation. Alors après, moi ce qui m'intéresse, c'est les conséquences humaines, et en l'occurrence le fait que cette vieille indienne qui sait qu'elle va mourir, qui a une maladie dégénérative, a décidé que c'était ce jeune couple-là.
Est-ce qu'il y a justement intéressant, parce que là on sent que vous y croyez, mais dans votre livre vous laissez plein de portes ouvertes. C'est ça votre talent, parce qu'au fond, il n'y a pas.
Je suis pas un homme de croyance. Ce qui compte, c'est ce que les gens font avec leurs croyances. Vous pouvez avoir une foi extraordinaire et faire que des saloperies et des conneries, et vous pouvez être totalement athée et être quelqu'un de merveilleux, de généreux, de profondément religieux au sens premier. C'est-à-dire créer de la religion, c'est créer des liens entre les êtres et les choses. Voilà. Donc dans le roman, il est important de montrer aussi que lorsque le vieux monsieur dit au jeune homme « Est-ce que vous verriez un inconvénient à être les prochains parents de ma femme ?» il ajoute « Bon, moi, c'est un vieux fond de rationalisme, j'ai beaucoup de mal à croire en la réincarnation, mais je veux que ma femme meure comme on le fait dans sa tribu, non pas en faisant ses adieux, mais en préparant son déménagement. Et la vieille dame dit de son côté à la jeune femme, ça peut pas marcher, jamais un Indian Tlingit ne s'est réincarné en dehors de son clan, mais je veux que mon mari y croit pour lui donner une raison de survivre. Ça sera la grossesse de la voisine d'en face. Donc là, vous voyez, on est dans de l'émotionnel pur.
De l'amour, tout simplement.
Et de l'amour. Et du respect de l'autre, y compris en, qui passe un peu par une forme de mensonge thérapeutique, de faire semblant d'y croire, de manière à ce que tout ça se termine le moins douloureusement possible. Et c'est un respect, un grand respect en plus. Pour moi, l'amour, évidemment, ne va pas sans le respect, sans la volonté de, pour des situations qui ne pourraient être que dramatiques, essayez quand même de créer du lien, du sens et du bonheur.
En tout cas, comme toujours, il y a beaucoup d'amour dans ce roman entre les êtres et puis évidemment de douleur, parce que l'amour ça fait aussi souffrir, mais ça c'est il y a longtemps qu'on le sait. Merci.
Oui, mais ça fait souffrir de manière plus intelligente et précieuse que beaucoup d'autres choses.
C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Didier Van Coverlaert. On dirait nous, c'est aux éditions Albin Michel. Et puis bon week-end à tous et on se retrouve lundi en compagnie de Philippe Arlin, sexologue, et puis toute la semaine prochaine, ce sera les sportifs qui seront à l'honneur. Chaque jour, j'aurai le plaisir de recevoir un sportif et ce sera Olivier Giraud qui sera avec nous lundi.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.